Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé en spectacle aux opprobres et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, et celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Voilà des paroles fortes. Il y a des versets qui sont très forts dans ce que nous avons lu. Il est question, verset 26, de pécher volontairement. Ça soulève beaucoup de questions, parce que quand est-ce que le péché n'est pas volontaire? Au verset 31, il est dit, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Il est question d'outrager l'Esprit de la grâce. Et puis, le dernier verset envisage carrément que certains puissent se perdre. Rappelons-nous le contexte de cette épître aux Hébreux, c'est-à-dire aux chrétiens d'origine juive, probablement concentrés sur Jérusalem. Ils ont tout un arrière-plan. Et il semble que plusieurs étaient en train de revenir en arrière. Pour la plupart des commentateurs, il semble que plusieurs personnes reniaient Jésus, allaient à la synagogue et prenaient position contre Jésus-Christ. Il semble que c'est ce péché-là qui est évoqué. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours quand je lis ce passage. L'auteur s'adresse à ces chrétiens hébreux d'origine juive. Et on sent qu'ils sont en perte de vitesse. Beaucoup sont en danger, puisqu'il y a un peu, il leur reproche et il veut les faire réagir parce que certains pourraient perdre leur salut. Et ce qui m'interpelle toujours, c'est que ces chrétiens de Jérusalem, hébreux, quand on lit le livre des Actes, il y avait le feu. Quand on lit le livre des Actes, on lit au premier, ils persévéraient. Alors bien sûr, peut-être que ce ne sont pas tout à fait les mêmes, mais je pense que certains de ceux qui sont en perte de vitesse avaient fait partie de ceux qui avaient goûté aux choses du début. Ils avaient goûté, peut-être que certains avaient carrément été présents à la Pentecôte et avaient goûté à l'effusion de l'Esprit. Certains avaient été là quand il y avait les menaces et ils se sont regroupés et ils ont prié, « Seigneur, qu'il se fasse en ton nom des prodiges, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. » Certains devaient être là quand ils se sont mis à prier pour que Pierre soit délivré. Ils ont vécu des choses. Et pourtant, aujourd'hui, vous avez eu le ton de la lettre, ça fait frémir. Eux qui ont été bouillants, zélés, enflammés, ils sont en perte de vitesse. Ça, c'est quelque chose. Vous savez que la perte du salut, c'est un grand sujet, un grand débat théologique. Moi, je crois qu'on peut perdre son salut. Par contre, on ne perd pas son salut comme on perd ses clés, heureusement. Surtout les messieurs. La perte du salut, c'est plutôt un processus. C'est un processus de déclin. On a un Dieu qui est bon. Il a payé le prix pour nous sauver. Quand il nous a sauvés, il ne veut pas nous lâcher comme ça. Et il va tout faire pour nous garder dans ses voies. Malheureusement, si nous, on s'engage et quelque part, le salut, on ne le perd pas, on l'abandonne. D'ailleurs, ce mot revient beaucoup dans le passage que nous avons lu. Au moins deux fois. Et ce que je voudrais partager ce matin, c'est que pour il y a des choses qu'on ne doit jamais perdre. Si la Bible envisage que l'on puisse perdre son salut, ce texte nous montre qu'avant, il y a des choses qu'on ne doit jamais perdre. Et il y a des choses qu'on ne doit jamais abandonner. Et il y a des choses dont on ne doit jamais se faire voler. Et je voudrais les partager avec vous. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est l'assurance du salut. N'abandonnez pas votre assurance. C'est marqué dans ce texte. L'assurance du salut, c'est quelque chose d'irremplaçable. C'est quelque chose de bon. L'assurance du salut, elle a été déposée au moment ou dans la période où nous avons donné notre cœur à Jésus. On a dit, Seigneur, je suis un pécheur. Je t'ouvre mon cœur. Et il y a eu une action de l'esprit. Et à un moment donné, le salut s'est posé. Et la certitude du salut s'est posée. Quand quelqu'un me répond, j'ai toujours été sauvé, je me dis, aïe, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris là. Parce que ce n'est pas possible. Mais un chrétien qui n'est pas sûr de son salut, ça pose problème. Et il y a un vrai danger. Pour certains, la certitude du salut a été longue à se poser. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais l'impression comme d'être dans l'entrée d'un magasin. Vous savez, il y a un capteur optique là, la porte s'ouvre, se ferme. Et j'avais l'impression à un moment donné, jusqu'à ce que je suis convaincu, à un moment donné, que Christ avait pardonné mes péchés, plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, ce texte, il dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ». À un moment donné, on a cette conviction-là, et ça, c'est irremplaçable. Aucune autre religion ne peut proposer ça, parce qu'elle ne fonctionne pas de la même manière. Ça, l'assurance du salut, ça provient de la grâce de Dieu. Mais c'est quelque chose d'immense, quelque chose de précieux dans les moments de difficulté, dans les moments d'épreuve, lorsqu'on doit affronter la mort, et qu'on puisse parler comme l'apôtre Paul, « Je sais en qui j'ai cru ». J'ai l'assurance qu'il gardera mon dépôt jusqu'à ce jour-là. L'assurance du salut, c'est quelque chose de précieux. Mais il peut arriver qu'un jour, certains chrétiens commencent à en douter. Et je voudrais vous dire ceci. Un chrétien qui commence à douter de son salut, la chute, elle n'est pas loin. Pour ne pas dire qu'elle a déjà commencé. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Parce que dans la vie chrétienne, finalement, tout se construit sur l'assurance du salut. Vouloir construire sa vie chrétienne en n'étant pas convaincu de son salut, c'est impossible. Sur la côte atlantique, on trouvait il y a encore quelques années des bunkers. Ces bunkers, c'était ces immenses blocos qui étaient posés sur le sable. Mais avec le temps, ils se sont enfoncés dans le sable. Je ne sais plus si on les voit encore aujourd'hui, mais il y a 15 ou 20 ans, on les voyait encore. Mais pourquoi ? Parce que c'est construit sur du sable. L'assurance du salut, c'est le fondement sur lequel on va construire notre vie chrétienne. Mais le diable, il va nous attaquer là. Il va essayer de nous atteindre là. Et c'est vraiment important. Mon frère, ma sœur, si tu doutes de ton salut, tu as besoin de te replacer devant lui. Tu as besoin d'être convaincu de ça parce que c'est irremplaçable. Ça fait tellement bien. L'assurance du salut n'empêche pas d'être, de se sentir coupable. Hein. à certains moments. Mais justement, la différence, c'est qu'on ne vit plus avec cette culpabilité, mais on va la gérer. On va s'approcher de Dieu, dire « Seigneur, là j'ai été mauvais. Là je me suis fait avoir, je te demande pardon. Et je crois à ta grâce. » Et c'est comme ça que ça fonctionne. Mais l'assurance du salut, c'est quelque chose qui demeure. C'est quelque chose de précieux. Et c'est indispensable. Et je voudrais vraiment ma... Alors certains peut-être n'ont pas l'assurance du salut ce matin parce qu'ils n'ont pas donné leur cœur à Jésus. Ça commence là. Il ne s'agit pas de s'auto-persuader si vous ne l'avez pas fait. Donnez votre vie à Jésus. Mais pour ceux qui l'ont donné, c'est vraiment important d'être bien conscient que Jésus l'a fait. Il a pardonné mes péchés. L'Esprit de Dieu atteste dans nos cœurs que nous sommes devenus enfants de Dieu. Des fois, on a besoin d'une attestation d'assurance. Mais non, là, assurance divine, attestation. Il atteste dans notre cœur que nous lui appartenons et qu'il n'y a plus de condamnation sur notre vie. Ce que nous ne devons pas aussi abandonner, c'est notre espérance. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dans la Bible, nous voyons des hommes qui ont été particulièrement éprouvés. Et on se demande des fois comment ils ont fait pour tenir. On pense à un homme comme Job. Job, il va vivre l'épreuve la plus terrible qu'un homme puisse connaître. Non seulement il va perdre tous ses biens, mais surtout, il va perdre toute sa famille en un jour. Et puis ensuite, il va être atteint d'un ulcère malin. Il va vivre quelque chose de terrible. On se dit, mais comment il va tenir? Mais ce qui va l'aider à tenir, c'est que quelque part dans un coin de son cœur, il saura que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et à un moment donné, il va nous sortir une phrase, on se demande d'où il va la sortir. « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera au dernier jour. » Mais où est-ce qu'il va nous chercher ça? Mais quelque part, il y a au fond de son cœur cette espérance que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et que quand bien même il ne comprend pas ce qui se passe, il sait que devant, Dieu va poser sa bonne main. L'espérance, c'est quoi? C'est cette capacité, c'est cet aspect de la foi qui consiste à regarder plus loin, à regarder au loin. Dans son étymologie, le mot « espérer » contient l'idée de percer l'horizon. Je trouve que c'est beau. Espérer, c'est cette capacité à regarder plus loin, à regarder au-delà et à croire que notre Dieu n'a pas dit son dernier mot, que mon Dieu n'en a pas fini avec moi. Quand quelqu'un est déprimé, pour ne pas dire dépressif, l'espérance, il n'y en a plus souvent. Et lorsqu'on parle avec cette personne et qu'on commence à lui dire que Dieu n'en a pas fini avec toi, le meilleur est devant, que Dieu va poser sa main à un moment donné, que l'épreuve n'est que passagère, et que la personne entend ces paroles, elle se dit que ça peut changer. À partir de là, elle reprend espoir. L'espérance, c'est cette capacité à regarder devant. Mais quand on y est, elle n'y est plus. Je pense à ce texte dans le livre des Actes, quand il dit « Nous désespérions d'être sauvés ». Quand on désespère, alors là, c'est dangereux. L'espérance, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas l'espoir. Hein. L'espoir, c'est pour le monde. Où l'espérance, c'est une ancre sûre et solide. Jetée au ciel, pas au fond de la mer, mais jetée dans le ciel, quelque chose de précieux qui nous aide à regarder. Et je pense à un autre homme qui s'appelle Joseph. Joseph, il va vivre quelque chose de terrible. Et qu'est-ce qui va l'aider à tenir? C'est quelque part dans un coin de son cœur, il savait que Dieu allait changer à un moment donné. Dieu allait intervenir. Et c'est ce qui l'a aidé. Il savait qu'il y avait... Dieu avait parlé un jour, il savait, même si c'était flou, c'était vague, mais ça l'a aidé à tenir. L'espérance est quelque chose d'important dans notre cœur. L'espérance, des fois, c'est cet aspect de la foi qui va faire que des fois, il y a rien pour être encouragé si bas, on va regarder plus loin. Attention à cet évangile qui nous parle que du bénéfice immédiat. Où on nous présente l'évangile, c'est que pour réussir son travail, c'est que pour son bien-être ici-bas. Attention, parce qu'il y aura déception. L'évangile nous parle aussi d'espérance pour nous amener à regarder plus loin, parce que des fois c'est dur ici-bas. Et on a besoin de regarder plus loin, devant. Et l'espérance, c'est quelque chose d'important, parce que quand je la perds, ou quand je l'abandonne, ça va être dur. Et après, la machine peut très vite se dérégler. Et on peut très vite se trouver dans un état de confusion, d'affolement, de panique. Il y a encore autre chose qu'il ne faut pas abandonner, c'est la communion fraternelle. Il y a un texte qui est là. Alors on le connaît, mais des fois on ne sait pas toujours où il est. Ben nous on l'a lu. Ce texte qui nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. » Si je reviens sur le contexte, là ça m'interpelle toujours. Si je reviens sur le livre des Actes, au début, mais les disciples ils sont toujours fous ensemble. Tout le jour ils sont ensemble. Et il nous est dit qu'ils se réunissaient chaque jour, partageaient. Ils mettent tous leurs biens en commun. Ils vivent des choses extraordinaires et là, les mêmes sont en train de délaisser la communion fraternelle. Il y a là quelque chose qui... On sent qu'il y a un vrai recul. Je sais que ce texte a des fois été un petit peu utilisé comme... des fois abusivement pour menacer les gens dès qu'ils quittent une assemblée ou quoi. Attention. Mais quand même, ce texte, il est important. On ne peut pas le mettre de côté. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'abandon de l'Église peut s'inscrire dans un processus qui conduit à la perte. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est dit dans ce contexte-là. Je voudrais dire ceci en tous les cas. La communion fraternelle, ça demande des efforts et ça ne sera jamais facile. Ceux qui ont 40 ans d'église, il ne faut pas croire qu'ils ont pendant 40 ans été épargnés par les difficultés. Ceux qui ont 40 ans d'église, ils ont encore plus de raisons que ceux qui ont quitté l'église au bout de 10 ans. On a tous connu des moments difficiles. Je découvre un petit peu l'église d'Annecy, j'apprends son histoire et je sais qu'il y a eu quelques périodes difficiles. Ça fait partie de la vie de l'église. Je ne connais, ma petite expérience pastorale me permet de dire que je ne connais aucune église qui n'a pas connu de difficultés. Des clashs, des problèmes, il y en a des fois certaines plus que d'autres. Ça, on n'échappe pas. Et dans le livre des Actes, eh ben, ils en ont connu. Quand à un moment donné, dans la distribution aux veuves, certaines ont été négligées, certains ont peut-être été blessés. Quand je pense à un Pierre qui mange avec certains, et puis quand les copains de Jérusalem arrivent, ils mangent avec les autres, ils ne mangent plus. Mais moi, si je vois ça, je dis, mais c'est qui ce Pierre là? Le grand Pierre, il est petit là. Je me mets à la place du chrétien qui voit la dispute entre Paul et Barnabas. Excusez-moi, mais le grand Paul, il descend dans le curseur, il descend là. Mais il y avait de quoi être choqué, il y avait de quoi être blessé, il y avait de quoi être déçu. On n'échappe pas à cette règle-là. Pourtant, la communion fraternelle, la vie d'église, c'est ce que Dieu a prévu. Je le dis et je le redirai, mais Dieu a prévu qu'on vive notre foi ensemble. Et il y a des choses qui ne se vivront que dans l'assemblée, pas sur Internet et pas tout seul, même si j'ai ma piété personnelle est quelque chose d'important, mais la vie d'assemblée, c'est quelque chose d'essentiel. La Bible parle de l'expression « les uns les autres », nous parle de vie, d'église et de communion fraternelle. Un pasteur me racontait son témoignage alors qu'il était enfant. Il était enfant et un jour il entendait ses parents qui discutaient à demi-mot. Et il a compris qu'il parlait de quitter l'église. Et il se rappelle sa réaction après coup. Et il dira, mais papa, t'es venu à l'église, t'étais malade et le Seigneur t'a guéri. Maman, t'étais pas bien, t'étais dépressive. Et quand t'es venu, t'as entendu parler de Jésus, ça a changé. Notre vie, elle a complètement changé quand on est venu à l'église. Moi, j'ai trouvé des amis aujourd'hui. Il n'avait pas fini, les deux parents se sont regardés, ils ont baissé les yeux. Plus jamais, ils ont reparlé de ça. Ils sont toujours restés fidèles à l'église. Et ce témoignage, il m'a marqué parce que je le trouve beau. C'est la parole d'enfant. Et des fois, on ne voit pas. Mais l'Église, c'est facile de la quitter. Mais c'est très dur d'y revenir. Ne le perdons pas de vue. Parce qu'il y a une culpabilité qui se met derrière. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Alors qu'on est souvent très heureux quand on voit quelqu'un. Toujours qui revient dans l'Église, mais. Mais retenons cette pensée, c'est que l'abandon de l'Église s'inscrit dans un processus qui peut être dangereux. Et c'est vraiment important de vivre sa foi avec des frères et sœurs qui nous soutiennent, qui vont nous dire des choses, parfois des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais c'est important, ça fait partie de la vie de l'Assemblée. Et puis, si j'ajoute ce point-là, n'abandonnons pas, aussi ne délaissons pas. Il est question de s'approcher du trône, de rentrer dans le sanctuaire. Les versets 19 à 22 nous montrent que finalement, là, au départ, souvent, ce qui manque, c'est ma communion avec Dieu. Jésus a inauguré pour nous une route nouvelle et vivante. Il nous a introduits dans un tabernacle céleste. Là aussi, on regarde l'arrière-plan. Il s'adresse à des Juifs. Des Juifs qui connaissaient le tabernacle. Ils savaient que dans le tabernacle, seuls les Lévites pouvaient officier. Et dans le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur pouvait officier. Une fois par an. Et désormais, tout ça a sauté. Dans le tabernacle céleste, tout le monde peut y rentrer. Tous ceux qui ont été lavés et purifiés par le sang de Jésus. Et c'est ce qu'il leur dit, ce qu'il leur enseigne. Il leur dit, il y a la possibilité de s'approcher du Dieu vivant. En donnant notre vie à Jésus, ce n'est pas seulement un billet d'entrée dans l'éternité qu'on a eu. Hein. C'est un accès illimité auprès du Dieu de grâce. Et chaque jour, on peut se présenter devant lui. Chaque jour, on peut venir à lui. Chaque jour, on peut lui apporter nos problèmes, nos questions, nos réflexions, nos incompréhensions, dire « je ne suis pas d'accord, Seigneur ». On peut dire, on peut parler à notre Dieu. Et parfois, des chrétiens vont délaisser ça. On va le délaisser. On se fait piéger parce que la journée est pleine, je n'ai pas le temps, je n'arrive pas à le programmer parce qu'aujourd'hui, il y a ceci, oh, il y a trop de choses. Et on prend l'habitude de ne plus s'approcher du Seigneur. Et ça, c'est, je dirais, c'est souvent le premier « mon frère, ma sœur, depuis quand ?» pas approché du Seigneur et t'as pas pris une heure ou deux avec lui pour dire Seigneur, trouve le chemin de mon cœur, atteins-moi, purifie-moi, il y a des choses qui ne vont pas, j'ai des pensées qui sont là, j'ai tendance à aller dans cette direction-là, ça fait combien de temps mon frère, ma soeur, que tu n'as pas fait ça? Et ça c'était indispensable, ça commence là, et je dirais tout se joue là, parce que mes problèmes, si je peux les traiter entre mon Dieu et moi-même, eh bien, ça évite qu'il y ait des ramifications, qu'il y ait des conséquences, que ça provoque toutes sortes de choses. J'ai besoin de m'approcher du Dieu vivant. Quand quelqu'un est en train de perdre son salut, je peux vous dire que ça fait bien longtemps que l'abandon du trône de la grâce est effectif. Ça fait bien longtemps que la personne ne s'approche plus du Seigneur. Elle ne se tient plus devant lui. Et ça, je crois que c'est vraiment un point important. Et puis, un autre domaine. Je vais dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 5. On ne lit pas ce texte, mais c'est dans les sept lettres de l'Apocalypse. Jésus s'adresse à un moment donné à l'église d'Éphèse. Et il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. On connaît tous ce passage. Et quand on lit cette petite lettre, on voit que cette église d'Éphèse, elle a plein de qualités. Mais elle a un gros défaut, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et on comprend que ce défaut, il est grave. Parce qu'il peut avoir des conséquences. Mais c'est quoi le premier amour? Alors, il y a le premier sens, c'est celui auquel on pense souvent. Le premier sens auquel on pense, c'est... Quand on pense au premier amour, on pense un petit peu comme dans la période des fiançailles. Au départ, quand le fiancé touche la main de la fiancée, il y a une électricité. Et puis 20 ans après, quand il touche la main de son épouse, il y a... Vous voyez, on pense un petit peu à ça, ce côté un petit peu là du début où il y a une excitation, il y a une ferveur et ce côté émotionnel et puis qui s'estompe avec le temps. Là, quand on pense au premier amour, on pense, on venait à toutes les réunions, on trouvait qu'il n'y en avait pas assez. Quand le pasteur lançait un appel, on était le premier à répondre. On lisait la Bible et en 15 jours, on avait déjà lu tout le Nouveau Testament. Et puis après, en 15 jours, on a lu quoi? Il n'y avait pas besoin pour dire « louer le Seigneur », ça louait. Il n'y avait pas besoin de boucher les trous avec de la musique ou je sais quoi. On pense à cette période-là. Alors je crois qu'il y a quelque chose, mais en même temps, cette définition du premier amour, elle me gêne un peu. Mais néanmoins, c'est important que la flamme qu'il y a au début ne se transforme pas en flemme. Hein. La flamme, elle doit demeurer. Et qu'il y ait toujours cette passion. Il y ait toujours cette ferveur. Et ça demande d'entretenir le feu. Et ce n'est pas toujours facile. Ce qui me rassure, c'est qu'on n'est pas les seuls dans ce problème. Les Éphésiens, quand on lit dans Acte 19, il y avait le feu. Hein. Acte 19, ça a été un début superbe. Et pourtant, après l'Église était bien organisée, tout était en place. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et si je reviens sur les chrétiens de Jérusalem, au début du livre des Actes, il y avait des choses. Dans Hébreux chapitre 10, verset 32, il leur dit « Souvenez-vous des premiers jours où vous avez supporté, où vous avez enduré. » Ils étaient là, il y avait le feu au départ. Et puis, à un moment donné, ça a commencé à baisser. Peut-être parce que ça n'a pas été assez alimenté, mais ça a commencé à baisser. Quelque part, ça me rassure qu'ils connaissent un peu les mêmes problèmes que nous. Mais ça ne solutionne pas mon problème. Ce qui me gêne avec ce premier sens, c'est que finalement, présenté comme ça, on a l'impression que c'est inévitable. Or, ce n'est pas le langage. Ce n'est pas le langage de la Bible, puisque le Seigneur semble nous dire que non, ça, on peut éviter cela. Et puis la Bible ne parle pas de perte du premier amour. Elle parle d'abandon du premier amour. Il y a une différence. Hein, nous, on a tendance à dire, mais abandonner, il y a l'idée de responsabilité. La perte, la responsabilité est moins engagée. Ce qui me gêne aussi, c'est que quand il est question un petit peu de cette manière de concevoir le premier amour, on a tendance à limiter l'amour à une émotion. Mais l'amour de Dieu, ce n'est pas qu'une émotion. Hein. Même si l'époux ou l'épouse, comment dire, il y a dans son rapport, il n'y a peut-être pas, comment dire, l'émotion du début, l'amour, il progresse avec le temps. Et il continue d'avancer. La Bible dit « tu aimeras ». L'amour, ça commence par une émotion, mais il y a une décision derrière. Et je me permets de dire, mais quand quelqu'un vraiment s'engage en divorce, c'est qu'il a décidé de ne plus aimer. C'est pour ça que je propose deux autres sens qu'il faut ajouter. Le deuxième sens que je propose, et celui-là je l'aime. Le premier amour, c'est l'amour qui met Jésus en premier. C'est l'amour qui donne à Jésus la première place. Le mot premier, c'est le mot protos, qui a donné le mot prototype. Ça veut dire pas seulement le premier dans le temps, mais le premier en rang. Le premier, celui qui est d'abord, celui qui est la tête, celui qui est au-dessus. Il y a cette pensée-là. Et le premier amour, c'est ça. C'est cet amour qui consiste à donner Jésus la première place. Quelqu'un a dit ce matin dans sa louange, c'était dit, je ne me rappelle plus comment c'était dit, mais je n'ai pas envie de te louer, mais je te loue quand même. Quelque part, c'est, vous voyez, des fois, les émotions ne sont pas toujours là. Mais Christ est le premier. C'est celui qui sera craint en premier. C'est celui qui sera servi en premier. Que mon cœur m'y porte ou qui ne m'y porte pas. C'est celui que je vais aimer en premier. Il y a des jours où m'approcher du Seigneur avec la parole, c'est facile. Il y a des jours, c'est un vrai combat pour déjà ouvrir la Bible. Mais il sera le premier servi. Il sera le premier craint. Il sera le premier honoré. Quand Jésus s'adresse à cette église d'Éphèse, il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé. » Si je reste sur mon premier sens, c'est difficile de dire quand est-ce que la flamme elle a baissé. Mais c'est plus facile de savoir où est-ce qu'on est tombé quand on sait... Vous savez, à un moment donné, des fois on fait des choix. Et dans nos choix, Jésus n'a plus la première place, on le met en second, en troisième. Hein, le Seigneur a la première place et puis un jour, « Ah tiens, je mettais l'activité ce jour-là. Ah, puis je mets ça. » Et puis je mets ça. Et puis c'est comme ça que le Seigneur qui devrait être le premier devient le deuxième, troisième, quinzième, seizième, je ne sais pas où. Des fois on fait des choix comme ça. Dans l'Ancien Testament, il y a une grande menace qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie grossière. On voit les gens, ils adoraient des statues, des choses comme ça. Nous, il n'y a pas de risque de ce côté-là. Pourtant, le risque de l'idolâtrie demeure. Puisque Jean, qui parle beaucoup d'amour, dit « Gardez-vous des idoles ». À la fin, il termine son épître avec cette parole-là. C'est quoi l'idole ? L'idole, c'est ce qui va quelque part prendre mon affection, qui va prendre mon énergie, qui devrait revenir à Dieu. Et quand je donne à quelque chose la place qui revient à Dieu, quelque part, ça tend à devenir mon idole. Et ça peut porter toutes sortes de noms, l'idole. Ça peut porter le nom d'un sport, ça peut porter le nom d'une activité, ça peut porter le nom d'une personne. C'est ce qui va prendre la place qui revient à Dieu. On veut que Christ soit en premier. La conversion, c'est donner, reconnaître Jésus comme sauveur, mais reconnaître Jésus comme Seigneur. Seigneur, tu as toute la place et surtout tu as la première place. Tu seras le premier. Le premier servi. Et puis, il y a un troisième sens que j'aime aussi beaucoup, et je crois qu'il faut le mettre dans cet équilibre. Le premier amour, c'est finalement celui que Dieu nous a manifesté envers nous. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés. Premier, on connaît ce texte, la première épître de Jean, chapitre 4, verset 19. Il nous a aimés en premier. Et quelque part, c'est bon de se le rappeler, mais le premier amour, c'est celui-là. Et finalement, c'est à celui-là, et c'est pourquoi là, je reviens sur mon texte d'Hébreux 10, où il est question de cette alliance, qu'il mettra ses lois dans nos cœurs. Jésus a donné sa vie. Et voilà l'amour sur lequel je dois toujours aller puiser. La Bible nous invite à nous souvenir de ce que Jésus a fait. La Bible nous invite à repasser dans notre cœur cette grâce, à nous en alimenter en permanence. Et j'ai besoin de me souvenir de ce que Jésus a fait pour moi. Ça sera ma force. Je ne dois jamais perdre de vue ce qu'est la grâce, faveur imméritée pour les pécheurs que nous sommes. Abandonner son premier amour, ça signifie donc des fois ne plus regarder à ce que Jésus a accompli pour moi. J'ai besoin de m'en nourrir. Pourquoi la Bible nous ordonne de nous souvenir de ce que Jésus a fait ? Parce qu'on doit venir épuiser, on doit s'en nourrir et se souvenir constamment de la grâce qui est passée dans notre cœur. C'est la source de notre renouvellement, c'est la source du pardon, c'est la source du rétablissement, de la guérison. Je termine simplement en disant ceci. Voilà des choses qu'on ne doit jamais perdre, frères et sœurs. L'assurance de mon salut. On ne doit pas la perdre, on ne doit pas l'abandonner, on ne doit pas se la faire voler. L'espérance, cette capacité à regarder plus loin. Un chrétien qui perd son espérance ou qui ne l'entretient pas, ça va être dur. L'amour fraternel et la vie fraternelle, c'est indispensable pour ma survie spirituelle. Ma communion avec le Seigneur, bien évidemment, est mon premier amour qui consiste à mettre Jésus en premier et à me nourrir de ce que Jésus a fait pour moi. Je termine avec ça, il y a un soldat dans les soldats de David, il y en a un qui va défendre un champ de lentilles. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez lu ça. Il va défendre un champ de lentilles devant toutes sortes d'ennemis. Qu'un champ de lentilles, il va risquer sa vie pour défendre un champ de lentilles. Ce que je viens de partager là, ça pourrait ressembler à un champ de lentilles pour le monde. Ça vaut rien. Mais pour nous, ce sont nos plus grands trésors. C'est ce qui a le plus de valeur. Et l'assurance de mon salut, je ne veux pas me la faire voler. L'espérance, je veux l'entretenir. Ma communion fraternelle, je veux la vivre. Et bien la vivre. Mon premier amour, je veux le garder. Et pas l'abandonner. Et je suis prêt à défendre ça comme ce soldat qui a défendu son champ de lentilles. Que le Seigneur nous aide à être attachés à lui. On va prier le Seigneur.